Évidemment, sur l'éducation aux médias, pour une raison simple, c'est qu'il faut éviter qu'on ait une rupture sociale dans le pays entre ceux qui auraient effectivement des familles aisées ou CSP moyen et plus, qui pourraient former leurs enfants, les accompagner effectivement dans ces usages numériques. C'est le livre de Lahire sur enfance de classe, Bernard Lahire, que je vous invite à lire sur ce sujet-là. C'est extrêmement important et nous le constatons. Effectivement, là où il y a un accompagnement, une éducation aux médias et à l'information, vous avez effectivement des résultats probant et puis une capacité à mettre à distance les contenus d'information que nous recevons aujourd'hui. Cette génération, c'est la génération isolée derrière son écran. C'est-à-dire qu'effectivement, l'information arrive sur un smartphone, vous êtes seul à la recevoir la plupart du temps, vous n'êtes pas en groupe pour la commenter et ça pose des défis considérables. La deuxième question, effectivement, qui est très importante, c'est qu'est-ce que nous faisons nous, mais c'est qu'est-ce que fait l'école. Et de ce point de vue-là, il faut faire un pas de côté et regarder notre système et nos systèmes éducatifs à travers le monde.
Alors, on en vient justement à cette deuxième partie. Quel est le bon médiateur? La question a été lancée par Zoé. Un mot quand même, puisqu'on vous a du CLEMI. Donc, c'est un organisme sous tutelle de l'éducation nationale. Il a trois missions, c'est ça, principalement?
Oui, alors, le CLEMI, c'est le centre de formation des enseignants en éducation, médias et à l'information. Donc, nous formons au national les formateurs qui ensuite...
C'est pas les profs directement, mais ceux qui vont former les profs.
Ce sont des profs la plupart du temps qui
ensuite
vont former des profs.
Non, mais vous ne formez pas tous les profs, êtes l'intermédiaire des...
Exactement, on forme d'abord des enseignants qui vont être formateurs eux-mêmes, hein, entre pairs, effectivement. Les enseignants que nous formons viennent en formation nationale et ensuite vont former en académie. Et puis nous sommes ensuite un centre de production de ressources pédagogiques pour accompagner...
De contenu, hein, donc vous les produisez.
Ouais. Ouais, on fait des ressources vidéo, des ressources imprimées, des brochures pour les enseignants du premier et du second degré. Et puis nous organisons une action éducative extrêmement forte qui s'appelle la semaine de la presse et des médias dans l'école, qui a lieu chaque année.
Ça, c'est très ancien, je crois. C'était avant même le numérique.
Ouais, ça a 30 ans. Et alors, ce qui est tout à fait passionnant, c'est que nous pensions que ça aurait pu péricliter et que cette
action
aurait pu vieillir. Et en fait, non seulement elle se développe, et puis elle inspire aujourd'hui des modèles à l'étranger. On a lancé effectivement en partenariat avec nos amis du Québec une semaine de la presse et des médias au Québec.
C'était leur première pour eux.
C'était leur première.
Et alors, vous, ça fasse déjà 30 ans.
Oui, et puis la Commission européenne a également demandé aux États membres de faire une action similaire qui a démarré en 2019. Et donc on voit que ce modèle original fait des petits.
Évidemment, sur l'éducation aux médias, pour une raison simple, c'est qu'il faut éviter qu'on ait une rupture sociale dans le pays entre ceux qui auraient effectivement des familles aisées ou CSP moyen et plus, qui pourraient former leurs enfants, les accompagner effectivement dans ces usages numériques. C'est le livre de Lahire sur enfance de classe, Bernard Lahire, que je vous invite à lire sur ce sujet-là. C'est extrêmement important et nous le constatons. Effectivement, là où il y a un accompagnement, une éducation aux médias et à l'information, vous avez effectivement des résultats probants et puis une capacité à mettre à distance les contenus d'information que nous recevons aujourd'hui. Cette génération, c'est la génération isolée derrière son écran. C'est-à-dire qu'effectivement, l'information arrive sur un smartphone, vous êtes seul à la recevoir la plupart du temps, vous n'êtes pas en groupe pour la commenter et ça pose des défis considérables. La deuxième question, effectivement, qui est très importante, c'est qu'est-ce que nous faisons nous, mais c'est qu'est-ce que fait l'école. Et de ce point de vue-là, il faut faire un pas de côté et regarder notre système et nos systèmes éducatifs à travers le monde.
Alors, on en vient justement à cette deuxième partie. Quel est le bon médiateur? La question a été lancée par Zoé. Un mot quand même, puisqu'on vous a du CLEMI. Donc, c'est un organisme sous tutelle de l'éducation nationale. Il a trois missions, c'est ça, principalement?
Oui, alors le CLEMI, c'est le centre de formation des enseignants en éducation, médias et à l'information. Donc, nous formons au national les formateurs qui ensuite...
C'est pas les profs directement, mais ceux qui vont former les profs.
Ce sont des profs la plupart du temps qui...
Non, mais vous ne formez pas tous les profs, êtes l'intermédiaire des...
Exactement, on forme d'abord des enseignants qui vont être formateurs eux-mêmes, hein, entre pairs, effectivement. Les enseignants que nous formons viennent en formation nationale et ensuite vont former en académie. Et puis nous sommes ensuite un centre de production de ressources pédagogiques pour accompagner...
De contenu, hein, donc vous les produisez.
On fait des ressources vidéo, des ressources imprimées, des brochures pour les enseignants du premier et du second degré. Et puis nous organisons une action éducative extrêmement forte qui s'appelle la semaine de la presse et des médias dans l'école, qui a lieu chaque année.
Ça, c'est très ancien, je crois. C'était avant même le numérique.
Ouais, ça a 30 ans. Et alors, ce qui est tout à fait passionnant, c'est que nous pensions que ça aurait pu péricliter et que cette
action
aurait pu vieillir. Et en fait, non seulement elle se développe, et puis elle inspire aujourd'hui des modèles à l'étranger. On a lancé effectivement en partenariat avec nos amis du Québec une semaine de la presse et des médias au Québec.
C'était leur première pour eux.
C'était leur première.
Et alors, vous, ça fasse déjà 30 ans.
Oui, et puis la Commission européenne a également demandé aux États membres de faire une action similaire qui a démarré en 2019. Et donc, on voit que ce modèle original fait des petits.
Vincent Cocaz, François Saltiel, sur quels sont les bons médiateurs, les outils?
Non, évidemment, si on veut qu'il y ait une forme d'égalité face à l'information, il faut l'école, ça reste le lieu privilégié. Après, il y a énormément d'acteurs associatifs qui sont très engagés aussi sur ces questions. Je pense à la Ligue de l'enseignement en éducation populaire, qui est évidemment très engagée sur cette question. Donc, mais parfois peut-être un peu aussi pour pallier les manques de l'éducation nationale. Et même au sein de l'éducation nationale, il y a des inégalités. Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas d'heures qui sont dédiées à ces questions, il y a des établissements...
C'est l'enseignant qui peut le faire plus ou moins.
Alors, c'est obligatoire, mais le problème, c'est que, moi je vois, parce que j'interviens dans des collèges et des lycées, j'ai des classes où ils vont avoir une heure par semaine sur ces questions et ils vont être très au fait. Ils sont capables de faire des revues de presse incroyables. Moi, j'ai des cinquièmes qui me font des revues de presse incroyables. Et dans d'autres établissements, ils n'ont jamais entendu, ils n'ont jamais ouvert un journal. Et donc, il y a des inégalités au sein du système.
Serge Barvet, pardon, mais vous semblez en désaccord.
Alors, je veux pas contredire Vincent qui intervient en formation, qui fait des choses. C'est simplement que nous sommes dans une période extrêmement riche puisqu'en pleine mutation et en pleine transition.
Notamment sur la formation aussi des enseignants.
Alors, sur la formation des enseignants et sur les programmes même.
Prenons les deux parce que c'est important. Sur les programmes.
Sur les programmes, aujourd'hui, on a des nouveaux programmes du collège avec les fameux enseignements pratiques interdisciplinaires et nous avons au lycée de nouveaux programmes. L'éducation aux médias et à l'information, c'est simple. Ils irriguent les programmes quasiment de façon transversale sur tous les programmes. Les nouveaux programmes du lycée. Donc je vous invite, le CLEMI a produit là-dessus une analyse des textes de programmes. Et sur
mais en gros, ça se retrouve dans le sciences numériques et technologies, c'est ça pour aujourd'hui.
Non, vous retrouvez en histoire, vous retrouvez dans les disciplines fondamentales, et puis ensuite vous les retrouvez dans les nouveaux enseignements comme sciences numériques et technologiques. Et effectivement, on aborde tous les aspects. Vraiment, je vous invite
à
regarder
l'enseignant peut aussi le faire spontanément sur tout un tas de sujets.
Et notamment les profs doc sont les référents.
C'est souvent le cas d'ailleurs, souvent quand même des actions justement de professeurs. Non, je pense que évidemment ça doit être dans l'école, ça doit l'être davantage dans l'école. Parce que, regardez, là on évoque plein de pistes, on voit que ce sujet il est protéiforme, donc il faut du temps, il faut des heures, il faut de l'accompagnement, il faut de la compréhension. Donc je pense que l'école devrait...
Une sorte d'universalisme pour que ça touche tout le monde.
Exactement, donc il faudrait que l'école accorde beaucoup plus de temps, parce que souvent c'est quand même le bon vouloir d'une professeure ou d'un professeur qui se dit, allez je vais le faire parce que ça me passionne, et surtout parce qu'on voit que le public y répond très favorablement.
Mais le professeur peut faire plus, vous dites non, mais le professeur peut faire plus, peut aller plus loin.
Le professeur peut faire plus, mais je dis non. Pourquoi? Parce que quand je dis qu'il y a une évolution drastique de ce sujet, moi je suis arrivé à la direction du CLEMI en 2017. J'aurais pu dire la même chose en 2017.
Drastique, je ne sais pas si ça grossit ou si ça diminue. Mais
en généralisant effectivement cette éducation qui aujourd'hui, c'est pas tant la victoire des militants et de tous ceux et des acteurs de l'éducation aux médias, c'est une évolution de nos sociétés dans les sociétés numériques qui fait qu'effectivement aujourd'hui ces compétences sont inscrites dans les programmes de manière obligatoire. Donc ne nous posons plus la question de la façon...
Faisons-le
et surtout formons nos enseignants.
Faisons-le bien.
Puisqu'aujourd'hui, c'est le défi.
Alors, on parle de la formation des enseignants, justement. Vincent Cocaz, vous avez un peu regardé ce qui se passe, puisque là, on est aussi en train d'avoir une réforme qui, du point de vue des textes, est assez précise. Du point de vue des profs, c'est très simple. Ils ont dit, on le fera pas. Non. Catégorique.
Alors c'est sur le temps de formation sur les vacances.
Oui, alors il y a deux formations, la formation initiale et la formation continue.
Voilà, donc la formation initiale, la réforme des ESP qui sont devenus les INSP, c'est
des anciens IUFM.
Je ne parle pas parfaitement l'éducation nationale qui est ma LV3 uniquement.
Il faut le dictionnaire.
Voilà, il faut me dire si je me trompe. Mais non, mais justement sur la question de l'éducation média, je suis allé regarder dans la formation notamment des profs en primaire. Il est écrit que 55% du temps va être consacré aux savoirs fondamentaux, 20% à la polyvalence, la pédagogie et la gestion de la classe, 15% à la recherche, et on se dit quel temps il reste pour tout ce qui est transversal, pour des questions comme l'éducation aux médias. Parce que là, si vous faites le calcul, il reste pas grand-chose. Et donc moi, j'ai l'impression que cette réforme va plutôt dans le sens, parce que c'est la philosophie peut-être du ministre de l'Éducation nationale, d'un renforcement des savoirs fondamentaux, comme il les appelle, plutôt que des savoirs transversaux comme l'éducation aux médias.
Là-dessus, on est au CLEMI sur la formation de 25 000 enseignants par an. Et on voit effectivement dans le cadre...
C'est un petit nombre. Quoi. C'est
sur pas
petit
sur 900 000, c'est ça?
Sur 870 000 enseignants, mais par an, je dis. Et effectivement, la difficulté de former aujourd'hui les enseignants à ces matières transversales, elle revient justement au fait que l'architecture de notre système éducatif repose sur le champ disciplinaire. Ouais. Historiquement, il repose là-dessus. À partir du moment où aujourd'hui on a une transformation dans les programmes, y compris dans les matières du lycée aujourd'hui, quand je parle du français, je parle de l'histoire, hein, je prends quelques thèmes, on est sur la capacité à décrypter l'information, les textes de presse, les contenus informatifs, effectivement. Donc là-dessus, on va être sur des formations où nous sommes extrêmement mobilisés, puisque nous avons une demande, par exemple, dans le champ des humanités, des professeurs de lettres, de français, d'histoire. Des professeurs d'histoire, qui nous disent, mais nous ne sommes pas enseignants d'éducation aux médias et à l'information. Et aujourd'hui, ces morceaux sont...
Mais comment le font-ils? Parce qu'ils ont 4 jours par an qu'ils peuvent utiliser pour ça, sauf que ça doit être pris sur leur congé, mais payé en heures supplémentaires, sauf que le paiement est tellement ridicule que les syndicats se sont opposés catégoriquement à ce que les profs le fassent, et les profs disent, il n'en est pas question. Mais donc, il y en a peut-être quelques-uns qui le font et qui viennent au Clémy. Peut-être, j'imagine aussi que beaucoup de profs le font par eux-mêmes, parce qu'ils ont des enfants, soir, etc. Mais concrètement, on ne les forme pas de manière continue. Il n'y a plus de formation continue en éducation nationale.
Alors, vous ouvrez le débat au moment où, justement, la transformation des écoles supérieures du professorat et de l'éducation se transforme en Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. Et ce changement notable de la dimension nationale, c'est aussi l'entrée dans le ministère de l'éducation, dans le choix, effectivement, des formations qui sera fait. Et donc ça, c'est extrêmement important aujourd'hui, parce qu'on voit qu'on va confier sur les territoires académiques une responsabilité sur les thèmes de formation, notamment au niveau des recteurs. Sur les temps de formation, je m'avancerai pas trop, parce que les négociations sont totalement en cours. Il me revient pas de commenter aujourd'hui, effectivement, les positions des organisations syndicales et du ministère. Mais le tout est que, effectivement, cette réforme, elle est majeure, puisqu'elle fait entrer aujourd'hui le ministère de la rue de Grenelle, de l'éducation nationale, dans le choix, effectivement, des thématiques et de l'organisation au niveau territorial. Et puis, il y a une organisation au niveau des opérateurs aussi. Qui pour former aujourd'hui ces enseignants? Et nous le faisons sur des thématiques d'éducation aux médias qui demandent d'avoir des tiers-lieux éducatifs, qui demandent d'avoir des modèles. Tout à l'heure, on avait un débat sur les intellectuels. Et j'écoutais ce que vous disiez. Ce qui manque certainement, parce que tout est relié. Si à un moment donné, on se pose la question de savoir quelles compétences en termes de formation on peut mettre en œuvre, c'est aussi quels universitaires on a pour nous inspirer dans les choix de ces formations, en fonction des territoires, des spécialités, effectivement,
oui, universitaires. Oui, puis aussi des journalistes, mais c'est ce qui est un peu...
Et des journalistes aussi.
Moi, je le fais aussi. Pour le moment, ça repose beaucoup sur le volontariat. Et c'est pour ça que je pose la question peut-être à François Seltel et à ce qu'ils font. Quand je regardais le programme du Tiki Festival, il y a des choses qui sont exactement ce que moi j'ai fait dans des classes il y a 2 ans. Crée ton propre journal, tourne ta propre vidéo, identifier les sources, parce qu'en fait, on a l'impression que la question aussi, c'est comment est-ce qu'on éduque aux médias? Si c'est l'école qui dit, il y a ce texte, là c'est vrai, là c'est faux, ce qui est assez souvent très efficace, c'est quand on fait faire des choses à des jeunes et qu'ils se rendent compte de la complexité de convaincre quelqu'un, d'argumenter, d'avoir une source et d'avoir un résultat qui est global. Vous, François, c'est ça que vous faites?
Oui, mais c'est toute la philosophie, effectivement, du Tiki Festival, c'est faire passer les enfants du statut de spectateur, puisqu'à la base, on a un festival qui projette des courts-métrages et des longs-métrages de cinéma qui sont toujours liés à un thème. Là, cette année, c'était la Terre, un thème qui est vraiment d'actualité, et à l'issue de ces projections, les enfants arrivent dans des ateliers et c'est eux qui fabriquent, c'est eux qui font des ateliers de, par exemple, de stop motion, c'est eux qui vont apprendre à coder, ils font des ateliers de cinéma, ils prennent des micros comme ici, ils font une radio, et avec Petit Libé, justement, le journal de Libération, ils font un journal. Donc toute la philosophie, c'est de passer du statut de spectateur à celui d'acteur, à celui de producteur de contenu, parce qu'on sait tous très bien que pour apprendre justement à déceler les manipulations d'une image, il faut l'avoir fait. Si on manipule, on sait comment on peut être manipulé.
Donc l'idée, c'est de ne pas les critiquer moralement, vous avez tort, mais c'est agissons, faisons-le.
C'est faisons-le ensemble déjà. Il y a des choses toutes simples, mais rien que d'expliquer ce que c'est que le chant et le hors-chant, par exemple, rien que d'expliquer ce que c'est que le trucage, on a un atelier fond vert au Tiki Festival. On a mis des petits reporters avec un fond vert, et puis d'un coup ils se retrouvaient à Bagdad, ou à Saint-Sébastien, ou tranquillement sur la plage de Biarritz. Bah, rien que quand on comprend ça, quand on comprend qu'un journaliste qui parle, il n'est pas forcément derrière ce même décor, et qu'on peut truquer une image, quand on comprend que on a beau avoir 30 personnes dans une pièce, on peut donner l'impression qu'on a 200 si on fait un plan serré et qu'on met une fausse légende, ou alors tout simplement qu'il n'y en a plus que 10 si on élargit le plan, et qu'on les fait faire On les fait faire. Vous savez, nous, ce qui est génial quand on est au Tchiki Festival, c'est que quand les enfants partent d'un atelier, ils ne regardent plus jamais la télévision pareil, ou peut-être qu'ils ne liront plus jamais un article de presse, ou plutôt, ils n'iront plus jamais sur Facebook
de la même manière. Voilà. Ils changeront leur vision.
Et là, quand on voit ça, on sait qu'on a réussi.
Serge Barbet.
On touche sur la semaine de la presse et des médias dans l'école 4 millions d'élèves aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui est considérable. C'est 1800 partenaires, notamment les partenaires médias. On voit effectivement une implication. Vous avez autour de la table deux journalistes qui sont aussi des chroniqueurs de l'émission,
mais
qui
sont aussi des... cinq. Mais
vous en avez même cinq. Alors je ne sais pas si les cinq, parce que j'ai découvert aussi Zoé qui effectivement dit mais moi aussi j'interviens en milieu scolaire.
Oui. Moi aussi.
Et vous aussi. voilà. Et donc je vous invite à venir au Clémy, Frédéric, pour qu'on fasse les choses ensemble, parce que en fait plus on se coordonne et c'est tout le rôle effectivement de liaison qu'assure le Clémy entre l'éducation et les médias. C'est aussi notre rôle aujourd'hui de faire des actions les plus pertinentes avec les enseignants. Nous avons 870 000 enseignants, je le disais. J'ai beaucoup de respect pour les journalistes. Je suis un ancien journaliste. Il y a 30 000 journalistes en France. Combien font de l'éducation? Donc je veux rendre à César effectivement ce qui lui appartient, à savoir que les enseignants font de l'éducation aux médias et à l'information, que c'est quelque chose qui est extrêmement important, avec des implications et des engagements qui ne sont pas toujours sus, parce que c'est pas toujours dans la culture des enseignants de le faire savoir. Et Vincent a eu raison de le dire, le rôle des professeurs documentalistes, qui est sans cesse interrogé et qui est très important effectivement, et qui est très important aujourd'hui avec tous les nouveaux programmes qui sont à l'œuvre.
Une question un peu, comment dire, pour ce un peu avocat du diable, est-ce que au fond on a besoin de structures? Est-ce que tout simplement, si on a face à nous des enseignants, c'est-à-dire des gens qui a priori ont été éduqués, sont surtout capables de s'auto-éduquer tout au long de leur vie, est-ce qu'il ne faut pas d'abord et simplement leur faire confiance?
Alors, je ne sais pas si c'est la question de l'auto-formation ou la question du rôle de l'État comme régulateur dans ce secteur.
Non, là, je parle des individus eux-mêmes.
L'approche empirique.
Si un enseignant n'est pas capable, alors qu'il est prof de philo, prof de maths, prof de littérature, de se dire, il y a un problème, je vais essayer de le résoudre, et de m'auto-former, est-ce que c'est parce qu'il va aller en stage, ou est-ce que c'est parce que on va lui donner une application à suivre? Est-ce que tout simplement, on ne fait pas confiance aux individus? Ce qu'ils le font d'ailleurs, j'imagine
bien. La confiance, moi je suis pour la confiance évidemment, mais tout à l'heure Vincent a dit quelque chose de très fort, il a dit il y a eu les attentats en janvier 2015, et pourquoi effectivement parmi les mesures prises par l'éducation nationale à l'époque, l'éducation aux médias et à l'information, créer des médias scolaires, tout cela a été promu avec beaucoup de force. Parce qu'il y a eu un certain nombre, effectivement, de constats que ces attentats ont fait germer dans le débat. Et nous avons perçu, effectivement, les dangers d'une société qui tombait dans l'ultra-crédulité ou incrédulité, qui, effectivement, doutait de plus en plus et rejetait massivement, aujourd'hui, la parole des prescripteurs, fût-il des politiques ou des médias. Et donc, la question, effectivement, c'est que nous sommes dans un rôle d'apprentissage de la citoyenneté à l'école, et que là, l'éducation nationale, pour le coup, a un rôle majeur.
Donc au fond, c'est dans l'éducation civique, comme on le disait à l'époque, d'une certaine manière que tout ça doit avoir lieu sous des formes un peu modernisées. Il y a d'autres outils, il faut les citer aussi. Il y a celui qui est lancé d'ailleurs en partie par Radio France, avec l'INA, France Télévisions, vous-même le Clémy, le réseau Canopé, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Culture, la Ligue de l'Enseignement, France Télévisions, l'INA et Radio France. C'est ce qui s'appelle le LUMNI. C'est quoi en un mot? Une plateforme des acteurs de l'audiovisuel qui propose des contenus. C'est ça?
Alors LUMNI, c'est une plateforme qui sera révélée avant la fin du mois de novembre et qui effectivement a été confiée aux acteurs de l'audiovisuel public, qui est une plateforme de ressources. À l'époque, l'ancienne ministre de la Culture, Françoise Nyssen, parlait du BBC à la française, avec cette obligation finalement pour les acteurs de l'audiovisuel de prendre leur responsabilité sociale dans le domaine de l'éducation. Et donc LUMNI arrive, nous en sommes un partenaire fier et heureux. Mais cela dit aussi une évolution de nos sociétés où sur la question des ressources et qu'on produit en direction des éducateurs et des enseignants, les acteurs de l'audiovisuel ont une place prépondérante.
Alors les autres acteurs, quels peuvent-ils être? Service civique, ça vous paraît une piste?
Les services civiques, bien sûr, mais moi je suis...
Là on est hors de l'école. Hein, mais...
Alors, on peut être aussi à l'école, et on peut être dans le temps scolaire, périscolaire et extrascolaire, et effectivement, moi je crois qu'il y a une mobilisation à opérer très large. Nous avons besoin des journalistes, nous avons besoin des médias dans l'éducation, médias et l'information, ça c'est l'ADN du Clémy, je dirais, depuis son histoire, depuis 35 ans, d'associer les professionnels de l'information à son action de formation, à son action en établissement scolaire.
Ça c'est vrai que c'est quelque chose d'assez saisissant, puisque autour de cette table apparemment, en tant que journaliste, vous êtes allé dans les classes, vous êtes allé à la rencontre des élèves, et pour les élèves, élèves, en fait, c'est très très fort. C'est que d'un côté, alors c'est là où je pense que le professeur veut pas se substituer justement aux journalistes pour faire cette éducation aux médias. C'est que d'un coup, bah, celui qui a écrit ce papier, ce journaliste, en fait, il ressemble à ça. Bah, on le disait tout à l'heure. D'ailleurs, bah, c'est pas quelqu'un qui gagne 40 000 euros par mois sous prétexte qu'il est journaliste. Non, il vit, il est peut-être habillé un petit peu comme toi. Ou voilà ce qu'il pense. Voilà comment il fait pour écrire. Voilà comment il fait pour concevoir son reportage. Et surtout, voilà les études qu'il a fait pour arriver à ce métier-là. Pourquoi quoi?
Parce qu'on parle d'agriculture, on lui met pas un agriculteur quand on parle de.
Mais il y a une mythologie sur le. Mais il y a une mythologie sur le.
Parce qu'il y a une défiance et une mythologie.
Tout le monde est contre moi.
Il y a une défiance et une méconnaissance, une ignorance effectivement du fonctionnement de la
société. Il ne faut jamais critiquer un journaliste devant des journalistes.
Non mais puisqu'on on parle beaucoup des.
C'est la règle numéro 1.
Et on parle beaucoup des fake news par exemple. Les fake news, c'est justement pour savoir où tout. On est dans une grande spirale où tout le monde est dans un grand complot. Les professeurs, les journalistes, ils appartiennent tous à une grande confrérie, etc. Sauf qu'à un moment donné, c'est intéressant aussi pour le journaliste déjà de se confronter, de sortir de sa rédaction et de se confronter à ce que pensent les jeunes, ça peut toujours aider, et que les jeunes se disent, ah oui, un journaliste en fait c'est cet homme ou cette femme là.
Vincent Cocazard,
je voulais rebondir sur ce que vous disiez sur on peut pas critiquer les journalistes. On est plusieurs journalistes à faire de l'éducation aux médias, à justement défendre une éducation critique aux médias. Je pense au collectif La Friche qui est dans cette optique là, de dire justement il faut critiquer les médias dans le sens, il faut décortiquer les médias, il faut interroger nos pratiques, y compris devant les élèves. Moi, les premières questions qui arrivent avec des élèves, c'est souvent combien vous gagnez. Effectivement, ça arrive très vite.
Et
mais aussi, est-ce que vous avez le droit de mentir
d'ailleurs.
Et moi, je leur réponds souvent, oui, dans l'absolu, on a le droit de mentir. Bah, il y a les cas de diffamation. Il y a
donc,
trois
à Libération, on ment.
On a le droit de mentir, c'est pas pareil.
On ment et on gagne 100 000 euros par mois.
Voilà, exactement.
Digital literacy, ça veut dire quoi? C'est une expression un peu, évidemment, américaine, mais c'est une éducation, au fond, au numérique, puisqu'on parle de médias, mais c'est beaucoup de numérique dont il s'agit. On parle en anglais de digital literacy. C'est un mouvement très important aujourd'hui d'enseigner l'apprentissage du numérique.
Oui, c'est l'aptitude à comprendre et à utiliser le numérique dans la vie courante, à la maison, au travail, dans la collectivité. Donc ça, c'est la définition de la digital literacy. Littératie numérique, on parle aussi d'aisance ou d'habileté numérique. Donc c'est quelque chose qui est plus large que l'éducation aux médias, parce que ça implique aussi des compétences plus techniques, on va dire. Il y a quelque chose qui est intéressant là-dessus, c'est que de plus en plus, on parle de littératie numérique au-delà des jeunes. Parce que beaucoup, là, on a eu un débat où on parlait des jeunes, des élèves, des enfants, d'éducation aux médias. Sauf qu'en fait, dans un certain nombre de pays, moi par exemple, j'ai discuté avec des chercheurs japonais ou coréens, eux, quand ils parlent de littératie numérique, ils pensent plutôt aux personnes âgées,
qui sont âgées, qui sont
déconnectées, au quartier, etc.
Oui, est-ce qu'on peut tout simplement dire qu'en France aussi, il y a une génération de plus de 60 ans qui relaie très régulièrement des fake news.
Oui, et alors sur les fake news, c'est hyper intéressant. Il y a eu un article dans le Monde Diplo cet été du mois d'août sur toute une partie de la population qui n'arrivait plus à s'inscrire, à utiliser les administrations publiques ou les services publics, tout simplement parce qu'elle n'avait pas les capacités.
Le mot de la fin, Serge Barbet, et puis vous, François Saltiel.
Je m'en voudrais qu'on n'ait pas cité effectivement la question des plateformes numériques et des GAFAM dans la perspective d'un enjeu d'éducation aux médias et à l'information à l'ère numérique.
Donc ils ont un rôle, ils peuvent avoir un rôle.
Ils entendent jouer un rôle.
Alors sur ça, le ministre de l'éducation lui-même, à savoir Jean-Michel Blanquer, s'est exprimé ce matin dans le JDD. Il dit à propos des GAFA et le rapport éducation nationale GAFA, ce n'est pas si simple, mais oui, nous sommes assez forts pour imposer nos normes, protéger nos élèves sans nous laisser imposer des règles. Oui, nous faisons le poids car l'éducation nationale est une des plus grandes structures au monde, pas un pachyderme très historique, un peuple de colibris. Nous ne sommes pas gros, nous sommes grands et agiles. Cette émission touche à sa fin, on se quitte avec un nouveau titre de Michael Kiwanuka. Merci à tous d'avoir été nos invités ce soir. On manque toujours de temps, mais pour aller plus loin, vous avez toutes les références, articles et livres dont on a parlé durant cette émission sur notre site France Culture, émission Soft Power. Dimanche prochain, nous parlerons de France Éducation Internationale, le sujet au niveau global et international. Un dernier mot, François Saint-Pierre.
Oui, juste un dernier mot, parce que je reviens de ce festival où j'ai été enchanté. 2000 enfants qui ont créé l'éducation aux médias, c'est aussi de aux enfants la possibilité de pouvoir dire des choses, et on est toujours surpris. Il y a une magie aussi quand on donne le pouvoir de donner aux enfants de pouvoir nous raconter des histoires, et je vous promets, c'est quelque chose de très fort. Donnons-leur leur parole, ils le méritent.
Dans un instant, vous retrouvez Carbone 14. Demain matin, j'ai encore le temps de vous signaler. Non, j'ai pas le temps, mais je vous le dis quand même. Sibeth Ndiaye sera l'invité des matins de France Culture, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé et porte-parole du gouvernement. Voilà, on est en retard, mais on y est. 19h29 en direct sur France Culture. Bonne soirée à l'écoute de notre chaîne et bonne fin de week-end.